Alors, cette fois-ci, donc, nous abordons le huitième chapitre. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. C'est le chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'est au cœur de ce chapitre qu'il y a deux petites notes de bas de page où il est question de des sacrements pour les personnes divorcées, remariées à la mairie. Alors, clairement pour le pape, c'était pas le.
Tu vois, c'est le chapitre 8.
Alors, c'est le chapitre 8 aujourd'hui, numéro 291 à 312. Voilà. Voilà. Alors, donc les médias tout de suite se sont précipités sur ce chapitre pour regarder. Vous avez en bas de vos pages, alors que je retrouve, par exemple, voilà, la note 336. Ou alors pire, si je puis m'exprimer ainsi, la note 351, alors c'est celle-là surtout qui a fait beaucoup causer. Voilà, enfin peu importe. Voilà. Mais pour le pape, ce n'était pas le cœur de son enseignement. Alors il disait encore dans l'avion, vers Bakou, ou quand il revenait de Bakou en octobre, tout le monde va au chapitre 8. Non, non, il faut lire du début à la fin. Et quel est le centre? Mais cela dépend de chacun. Pour moi, le centre, le noyau d'Amoris Laetitia est le chapitre 4, qui sert pour toute la vie. Mais il faut la lire en entier, la relire en entier, et la discuter en entier, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc, et pas simplement une note de bas de page sur les 250 pages de. En fait, le pape François, finalement, il s'en est bien tiré, hein, honnêtement, parce que quand est paru la lettre, il y a un an, voilà maintenant, le 8 avril 2016, tout le monde s'attendait là sur cette question-là. Mais lui disait que c'est une attrape, là, en italien, un piège, en fait, cette question parce que pour lui, c'est pas le cœur de la question qui concerne la famille. Hein, il y a d'autres questions, et même pour les personnes qui sont plus directement concernées, c'est pas le cœur de la question non plus. Donc. Donc il voulait, il a répondu un peu indirectement, mais pour lui, encore une fois, ça l'énervait qu'on l'attende sur cette question et puis qu'on ne voit que ces deux notes-là dans tout le livre de 250 pages, qu'on voit que les notes de bas de page, donc ça fait une ligne à chaque fois, qu'on ne retienne que ça de l'enseignement, ça lui semblait un peu stupide. Quelque part, ça me fait penser à l'attitude des gens vis-à-vis de ce que pouvait bien dire le pape François, un peu à des situations dans l'évangile, hein, avec la femme adultère. Alors ils lui amènent et puis ils lui disent: mais on doit la lapider ou pas, toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus, à chaque fois, il décale la réponse, il répond pas vraiment. Ou quand il est question aussi du devons-nous payer l'impôt à César ou pas? Et alors, Jésus décale un petit peu la question aussi. Il ne répond pas par oui ou par non. Et je dois dire qu'à la bonne école de Jésus, ben, finalement, le pape ne répond pas vraiment par oui ou par non non plus. Hein. Donc, c'est vrai que certains trouvent que sa réponse est un peu confuse, mais. Oui, non. On verra un petit peu plus précisément, justement, mais ça sera cet après-midi. Mais voilà, en tout cas, lui, c'est vraiment pas la question qui l'intéressait. Et il voulait pas s'engouffrer dans ce... C'était la seule chose que les médias attendaient, c'était ça sur les personnes homosexuelles. Mais là, il a été très clair sur le mariage homosexuel. Alors là, plus clair, on ne peut pas. Il dit non, ça n'a rien à voir avec le mariage, donc on n'en parle même pas. Ceci dit, on doit le respect aux personnes qui ont cette souffrance, etc. Voilà, donc il aime les personnes, mais il dit mais non, ça n'a rien à voir avec le mariage, donc on n'en parle même pas là-dedans, parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Mais tout le monde sait qu'il apprécie les personnes qui correspondent quelquefois avec des personnes qui homosexuelles, mais pour lui, le mariage, c'est autre chose. Donc voilà, on ne mélange pas tout. Alors, je vais vous faire un scoop. Le chapitre 8 arrive après le chapitre 7. Là, je crois que jusque-là, vous me suivez. Et je trouve que le chapitre 8, on peut le lire un petit peu à partir du chapitre 7. Le chapitre 7, il parle de l'éducation. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et en même temps, c'est une application pratique. Alors, il ne s'adresse pas à des enfants dans ce cas-là, mais ce qu'il disait dans le chapitre 7, je vais reprendre deux numéros du chapitre 7 pour voir combien ce qu'il pouvait dire déjà dans le chapitre 7 se retrouve finalement dans ce chapitre 8. Au numéro 271, il disait « L'éducation morale implique de demander à un enfant ou à un jeune uniquement ces choses qui ne représentent pas pour lui un sacrifice disproportionné. De n'exiger de lui qu'une part d'effort qui ne provoque pas de ressentiment ou des actions trop forcées. Le parcours ordinaire est de proposer de petits pas qui peuvent être compris, acceptés, valorisés et impliquent un renoncement proportionné. Autrement, en exigeant trop, nous n'obtenons rien. » Et je crois que ça, c'est tout à fait dans le chapitre 8. Vous verrez, pour les situations difficiles, c'est ces petits pas et pas exiger trop des personnes, mais juste qu'elles peuvent donner. Voilà, donc je vais pas. On pourrait reprendre aussi le numéro 273, mais il ne faut pas que je sois trop long, sinon je n'arriverai pas à la fin de. Mais donc c'est un peu la ligne de fond, vous verrez dans ce chapitre sur les situations difficiles. C'est vraiment cette tournure d'esprit qu'a le pape. Je reviens sur le titre. Le pape parle de accompagner, discerner, intégrer la fragilité. C'est trois verbes. Et ces trois verbes que... Voilà, accompagner, ça suppose d'abord d'écouter, de prendre le temps de rencontrer la personne, de l'écouter, d'essayer de comprendre ce qu'elle vit. Première étape. Après, on verra, donc c'est discerner. Bon, on ne peut pas discerner si on n'a pas commencé par écouter d'abord. Mais après, il y a le moment du discernement. Vous savez que, alors le pape est un jésuite, c'est un secret pour personne, et pour les jésuites, le discernement est quand même quelque chose d'important. Hein. C'est le fondateur des jésuites, Ignace de Loyola, c'est lui qui a lancé, on pourrait dire comme ça, les exercices spirituels, hein, qui a fait ses preuves. Hein, il y en a, si vous voulez faire des exercices spirituels pour discerner, alors il y en a dans différents lieux, à Manresa et dans bien d'autres lieux. Mais voilà, ça c'est une préoccupation du pape, il y revient régulièrement sur la question du discernement. Il dit non, il faudrait vraiment qu'on fasse des progrès au niveau du discernement. Donc, accompagner... discerner, intégrer. Ça, on va y venir assez vite. Le but du pape, c'est justement que les personnes puissent avoir leur place vraiment dans l'Église, qu'elles se sentent chez elles comme dans la maison paternelle, voilà, qu'elles sentent qu'elles ont vraiment leur place intégrée. Voilà le titre de cette partie. Voilà, donc c'est un document pastoral. Encore une fois, dans cette veine-là, le pape veut accompagner les personnes. Ce n'est pas du tout un document d'ordre doctrinal. Alors, le pape reprend différents éléments d'ordre doctrinal du Concile, de ses prédécesseurs, etc. Mais ce n'est pas un document doctrinal encore. Donc, il ne faut pas attendre du document ce qui... C'est pas la perspective de ce document. C'est un document vraiment pastoral. Comme d'ailleurs le pontificat de pape François, ce pontificat a plus une veine pastorale. Autant Benoît XVI était aussi un pasteur, mais c'était avant tout un docteur. Et c'est vrai que ses homélies sont absolument lumineuses, mais d'une manière différente que celle du pape François. C'est deux hommes différents et complémentaires. Voilà. Alors après cette introduction, un peu plus longue que d'habitude, voilà. Donc j'entre au numéro 291. Dans ce numéro 291, je vais pas retenir beaucoup, beaucoup de choses, mais... Une chose qui reviendra constamment, donc l'Église, illuminée par le regard de Jésus-Christ, se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie, leur donnant le courage d'accomplir le bien pour prendre soin de l'autre avec amour, et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent. Voilà, alors peut-être qu'il y a des personnes, et justement, de par leur histoire, les péripéties de leur vie, participent à la vie de l'Église de manière incomplète, mais ceci dit, la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie. La grâce de Dieu n'agit pas seulement dans la vie de ceux qui sont dans les clous, mais aussi dans la vie de ceux qui ont peut-être justement une vie un peu plus compliquée. Et l'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance. Donc ça c'est... Il y en a qui se sont confessés à Père Jean ici. Il y en a qui se rappellent, oh, pas tant que ça hein. Eh bien, souvent, il était dans cette veine-là. Allez, courage et confiance, voilà, c'était... Mais c'est un peu cette même veine. Le pape François désire aller redonner espérance à ceux que, voilà, qui ont eu des épreuves dans leur vie. Et bon, après, il ne porte pas de jugement sur les personnes. Alors, sur les situations, bien sûr, il y a des situations qui ne sont pas très heureuses, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Et puis maintenant, on redémarre et puis on avance. On redonne confiance et espérance, comme la lumière d'un phare d'un port ou un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. Voilà. Ça, c'était le numéro 291. Numéro 292. Le pape distingue trois situations dans le numéro 292. Ceux qui réalisent le mariage chrétien de manière plénière. Après, ceux qui sont en contradiction avec cet idéal. Alors, ça pourrait être l'union de deux personnes du même sexe, la polygamie, ou voilà. Alors là, on est complètement en contradiction avec cet idéal du mariage chrétien. Et puis, troisième chose, la réalisation partielle et par analogie. Alors, c'est plutôt de cette troisième situation qu'il va aborder au cours de ce chapitre 8. Donc, par exemple, les divorcés remariés, il faut valoriser les éléments constructifs dans ces situations. Donc, valoriser, c'est... Toujours cette perspective assez positive du pape François, valoriser ce qui est constructif dans ces situations. Il ne met pas le doigt simplement sur les points qui vont mal, mais plutôt sur, voilà, sur ce qui est déjà quelque chose de bien. Même si c'est incomplet, partiel, par analogie, bon. Mais il y a quand même quelque chose qui est bon. J'en viens au numéro 293 à 295. Alors là, je m'attarderai un peu plus longuement. Là, il ne parle pas simplement des divorcés remariés, mais il parle aussi de ceux qui se sont mariés seulement civilement, de ceux qui cohabitent. Mais dans tous les cas, il invite à une attention pastorale miséricordieuse et encourageante. Et son attitude, toujours, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et mettre en valeur les signes positifs, encore une fois. Parce que dans bien des situations, c'est pas de manière un peu idéologique que les gens refusent de se marier. Hein. Ça peut être soit parce que le contexte ambiant fait que beaucoup de gens ne se marient pas, donc ils font comme tout le monde, mais sans forcément, c'est pas absolument délibéré, voilà, ils laissent la vie décider pour eux quelquefois, ou certains, ils attendent pour se marier parce qu'ils veulent faire une belle fête, ils ont pas assez de sous, après il peut y avoir, mais c'est pas forcément, ils se positionnent pas contre le mariage, tous ces gens-là, c'est simplement que, ils se positionnent pas pour le mariage, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils soient contre. Et là, dans ces paragraphes, le pape parle de la loi de la gradualité. Alors, d'où vient cette loi de la gradualité? Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Cette loi de la gradualité est parue, apparue au moment, notamment au moment du synode sur la famille en 1980, et ça avait été repris par Jean-Paul II dans son encyclique, je crois que c'est une encyclique, Familiaris Consortio. Ou une exhortation possible, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça avait été repris. Voilà ce que disait Familiaris Consortio, donc c'est un document majeur quand même sur la famille de Jean-Paul II. La loi de gradualité désigne un cheminement pédagogique de croissance incontournable pour les êtres insérés dans le temps que nous sommes. Cheminement pédagogique de croissance, hein, cette dimension pédagogique. Ou un peu plus loin, dans Familiaris Consortio, toujours, l'homme est un être situé dans l'histoire. Jour après jour, il se construit par ses choix nombreux et libres. Ainsi, il connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance. Alors, souvent, il est dit que ce n'est pas une gradualité de la loi, mais c'est une gradualité dans l'accomplissement prudent des actes libres. La loi, on ne rabaisse pas la loi, Alors, je peux vous lire peut-être ce que disait Jean-Paul II, c'était au numéro 34 de Familiaris Consortio. Ça nous exprime bien ce que c'est que cette loi de la gradualité et non pas la gradualité de la loi. Les époux, dans la sphère de leur vie morale, sont appelés à cheminer sans se lasser. Cheminer, c'est aussi un mot qu'on voit beaucoup sous la plume du pape François. Le mot chemin, cheminer, je ne sais pas combien de fois il apparaît dans cette exhortation apostolique, mais souvent en tout cas. Donc les époux sont appelés à cheminer sans se lasser, soutenus par le désir sincère et agissant de mieux connaître les valeurs garanties et promues par la loi divine, avec la volonté de les incarner de façon droite et généreuse dans leurs choix concrets. Ils ne peuvent pas toutefois considérer la loi comme un simple idéal à atteindre dans le futur, Mais ils doivent la regarder comme un commandement du Christ Seigneur, leur enjoignant de surmonter sérieusement les obstacles. C'est pourquoi ce qu'on appelle la loi de gradualité, ou voie graduelle, ne peut pas s'identifier à la gradualité de la loi. Comme s'il y avait dans la loi divine des degrés et des formes de préceptes différents selon les personnes et les situations diverses. Tous les époux sont appelés à la sainteté. Donc, la loi de la gradualité, ce n'est pas dire, bon, voilà, mon pauvre petit, tu ne peux pas faire plus, donc voilà, pour toi, on rabaisse un peu la barre parce que... Non, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et l'Église ne veut pas rabaisser le... Tous, nous sommes appelés à la sainteté. Donc, cette loi de la gradualité, ce n'est pas un laxisme moral. C'est se proportionner aux efforts que les gens sont capables de faire avec la grâce de Dieu, mais pas pour les laisser... voilà, quelque chose de médiocre. Et donc, cette loi de la gradualité suppose un accompagnement que le pape propose souvent. Il en avait parlé notamment dans sa première lettre, qui est un peu la lettre programme de son pontificat, Evangelii Gaudium, à la joie de l'Évangile. Et au numéro 171 et 172, par exemple, de Evangelii Gaudium, il parle de l'accompagnement personnel. Plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui, à partir de leur expérience d'accompagnement, connaissent la manière de procéder, où ressortent la prudence, la capacité de compréhension, l'art d'attendre, la docilité à l'esprit. Nous avons besoin de nous exercer à l'art de l'écoute. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Mais c'est à partir de cette écoute qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien, l'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. Voilà, c'est donc cet accompagnement, mais pour avancer, même si c'est graduel, mais pour vraiment avancer. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui pourraient faire de l'accompagnement d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas réservé aux prêtres, hein? Il y a des laïcs qui le font très bien. Vous savez tout aussi bien et peut-être mieux écouter que nous. Hein? Donc voilà, alors après ça demande peut-être une formation aussi quelquefois. Mais c'est quelque chose de précieux quand on peut accompagner, écouter, accompagner. C'est pour aider les gens... J'aime beaucoup cette phrase. C'est à partir de cette écoute qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique. Alors, je vous en reparlerai peut-être un petit peu. Je suis allé visiter la communauté de nos frères en Argentine. Là, je suis rentré la semaine dernière. Et tout le début de mon séjour, c'était surtout d'écouter. Il y avait quelques petites choses un peu compliquées. Et puis, j'ai découvert à cette occasion, de plus que jamais, combien c'était quelque chose de très fort, l'écoute. Et du coup, voilà, ça a pu avancer beaucoup plus que je pouvais imaginer sur certains points. Mais voilà, mais à partir d'une écoute. Pardon, je suis à moitié sourd. C'est à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu'on peut trouver les chemins pour une croissance authentique. Qu'on peut réveiller le désir de l'idéal chrétien. L'impatience de répondre pleinement à l'amour de Dieu. Il a soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie. Alors, cette loi graduelle, ça suppose aussi, cette loi de la gradualité, ça suppose aussi une qualité qui n'est peut-être pas la qualité la plus développée actuellement, qui est la patience. Ça suppose beaucoup de patience pour pas exiger tout de suite ce que la personne ne peut pas donner. Voilà, donc marcher au pas des gens et puis quelquefois revenir en arrière et puis allez, on repart, on y va, voilà. Alors, au numéro 296 et 297, le pape parle du discernement des situations dites irrégulières. Il met toujours cette nuance, hein. Ce n'est pas des situations irrégulières, c'est des situations dites irrégulières. Alors, c'est là qu'il est question notamment de l'intégration. Alors, vous connaissez peut-être cette homélie du 15 février 2015, bien sûr, elle vous revient à l'esprit, c'est toi que je vous dis la date, vous dites, bah, bien sûr. Il y a quelques homélies marquantes du pontificat, et ça, c'en est une clairement. C'est une des homélies marquantes du pontificat. Il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'est vraiment une homélie marquante du pontificat du pape François. Alors, dans quelles circonstances il a prononcé cette homélie ? Alors, à l'occasion, il y avait des nouveaux cardinaux. Et c'était un dimanche, je ne sais plus quel dimanche, mais en tout cas, c'était l'année B. Et c'était un commentaire de l'évangile de ce dimanche, c'était Saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Il s'agit du lépreux, Jésus qui guérit un lépreux. Alors je reviens un petit peu sur cette homélie qui est importante parce que je pense que le pape François, d'une manière ou d'une autre, il revient souvent. Il a quelques thèmes sur lesquels il revient souvent et ça c'en est un. Et du coup, le lépreux, justement, il a été exclu. Alors voilà ce que dit le pape. Moïse, traitant juridiquement la question des lépreux, demande qu'ils soient éloignés et exclus de la communauté tant que dure leur mal et il les déclare impurs. Le but de cette réglementation était de sauver les bien portants, protéger les justes et pour sauvegarder de tout risque, exclure le danger, traitant sans pitié celui qui est contaminé. Donc, la lèpre. Donc, on les met vraiment. Bon, on les voit souvent dans l'évangile, il y a souvent des lépreux, et alors on n'a pas le droit d'entrer en rapport avec eux, etc. Et après, voilà, le pape développe. Jésus révolutionne et secoue avec force cette mentalité enfermée dans la peur et auto-limité par les préjugés. Face à la pécheresse, Jésus ne la condamne pas, mais au contraire la sauve du zèle aveugle de ceux qui étaient déjà prêts à la lapider sans pitié, estimant appliquer la loi de Moïse. La logique de l'amour ne se fonde pas sur la peur, mais sur la liberté, sur la charité, sur le zèle saint et sur le désir salvifique de Dieu. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Alors, le pape note justement que Jésus a voulu guérir le lépreux, mais après, quelque part, c'est lui qui a pris l'exclusion sur lui-même, donc le lépreux réintégré, et puis c'est Jésus qui doit être à l'écart parce que tous les gens... Donc, il montre comment Jésus a pris cette exclusion sur lui. Il a voulu réintégrer le lépreux dans la communauté sans s'auto-limiter dans les préjugés, sans s'adapter à la mentalité dominante des gens, sans se préoccuper de la contagion. Pour Jésus, ce qui compte avant tout, c'est de rejoindre et de sauver ceux qui sont loin, soigner les blessures des malades, réintégrer tous les hommes dans la famille de Dieu, et cela scandalise certains. Mais Jésus n'a pas peur de ce type de scandale. Il ne pense pas aux personnes fermées qui se scandalisent même pour une guérison, qui se scandalisent face à n'importe quelle ouverture, à n'importe quel pas qui n'entre pas dans leur schéma mental et spirituel, à n'importe quelle caresse ou tendresse qui ne correspond pas à leurs habitudes de pensée, à leur pureté rituelle. Il a voulu intégrer les exclus, sauver ceux qui sont en dehors du campement. Alors il continue, il en remet une couche, si je peux dire. Il y a deux logiques de pensée et de foi. La peur de perdre ceux qui sont sauvés. Et la deuxième, le désir de sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui aussi, il arrive parfois de nous trouver au croisement de ces deux logiques. Celle des docteurs de la loi, c'est-à-dire de marginaliser le danger en éloignant la personne contaminée. Et deuxième logique, la logique de Dieu, qui avec sa miséricorde serre dans ses bras et accueille en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut et l'exclusion en annonce. La route de l'Église est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. Cela ne veut pas dire sous-évaluer les dangers ou faire entrer les loups dans le troupeau, mais accueillir le Fils prodigue repenti, guérir avec détermination et courage les blessures du péché, se retrousser les manches et ne pas rester regarder passivement la souffrance du monde. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère. Encore un peu plus loin, je ne vous lis pas tout, mais en guérissant le lépreux, Jésus ne porte aucun dommage à qui est bien portant, au contraire, il le libère de sa peur. Il ne lui apporte pas un danger, mais il lui donne un frère. Il ne méprise pas la loi, mais il apprécie l'homme pour qui Dieu a inspiré la loi. En effet, Jésus libère les bien-portants de la tentation du frère aîné et du poids de l'envie et des murmures des ouvriers qui ont enduré le poids du jour et de la chaleur. Ceci est la logique de Dieu, ceci est la route de l'Église, non seulement accueillir et intégrer avec un courage évangélique ceux qui frappent à notre porte, mais sortir, aller chercher sans préjugés et sans peur ceux qui sont loin, en leur manifestant gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Je m'arrête là pour l'exclusion, mais c'est quelque chose, vous sentez, c'est un thème qui revient beaucoup, il le dit avec force, il le dit très bien dans cette homélie, qui a certainement pas mal secoué ce jour-là, mais donc n'hésitez pas à la reprendre, c'est vrai que c'est assez imagé aussi, mais derrière, il ne parle pas tellement du lépreux, bien sûr, derrière, on voit bien qu'il... Et derrière cette idée d'inclusion et d'exclusion, il y a aussi cette idée qu'il n'y a pas les pécheurs d'un côté et les justes d'un autre, pour le pape François. Même si on est peut-être dans les clous pour le mariage, ou on est dans les règles, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas pécheur. Il ne dit pas non, il y a tous les pécheurs d'un côté, puis les autres ne sont pas pécheurs. Il dit non, tous nous sommes pécheurs. C'est cette logique d'intégration, c'est aussi la logique d'une intégration dans une communauté de pêcheurs. Où, on n'a pas Bien sûr, il n'encourage pas non plus à faire au péché, hein, c'est pas du tout ça, mais si grâce à Dieu, donc, on n'est pas dans une situation qui nous empêche d'aller communier, ben, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas dire « je ne suis pas digne de te recevoir, parce que moi aussi je suis pécheur ». Et du coup, vous sentez déjà que là, derrière cette idée d'inclusion et d'exclusion, d'intégrer, la question du pape, c'est pas tellement de recevoir la communion sacramentelle pour les divorcés mariés. Ça, c'est accessoire d'une certaine manière. C'est d'abord qu'ils aient leur place, qu'ils soient dans la communion de l'Église, vraiment, qu'ils sentent qu'ils font vraiment partie de l'Église. C'est pas tellement la communion sacramentelle, c'est plus encore la communion avec Dieu qui l'intéresse et la communion avec les autres membres de l'Église. C'est ça qui l'intéresse. Plus que la communion eucharistique. Je pense que c'est... Alors, bien sûr, quand on peut recevoir la communion eucharistique, c'est très bien, et Jésus nous donne son corps. Mais ça reste qu'une grâce qui nous est donnée. C'est pas, encore une fois, c'est pas non plus un dû, la communion. Et de toute façon, vous verrez, à partir du moment où quelqu'un est dans cette posture, j'ai droit à la communion, le pape reste dans ton coin, la communion, ce n'est pas un bon point, non. C'est une grâce qui t'est faite, pour tous. Et, alors, on y reviendra, mais on ne peut pas revendiquer un droit sur la communion, sur recevoir le corps de Jésus, pour qui que ce soit d'ailleurs. Alors, je continue un petit peu, encore un petit peu avant de la pause, avant de l'adoration. Alors, numéro 298, oh, c'est un long numéro celui-là. Oui, 298. Alors, dans ce numéro, le pape invite surtout à ne pas mettre tout le monde dans le même sac, si je puis dire ainsi. Mais, alors ça, c'est toujours dans cette ligne du discernement, d'évaluer la diversité des situations. Alors, il évoque, par exemple, il y a des personnes donc, qui sont divorcées, remariées, mais ça fait déjà longtemps qu'ils vivent ensemble, ils ont des enfants, ils ont été fidèles dans cette deuxième union, ils s'engagent vraiment, ils ont conscience que leur situation n'est pas régulière, voilà, mais en même temps, ils ne voient pas comment ils pourraient faire marche arrière parce qu'ils ont eu des enfants, etc. Donc il dit, bon, il y a cette situation, mais après, il y a ceux qui ont été abandonnés, même s'ils ont fait tous leurs efforts, de fait, ils se retrouvent tout seuls. Il y a ceux qui, et du coup, ils ont cherché à vivre avec quelqu'un d'autre après. Il y a ceux qui, se sentant pas assez forts pour éduquer leurs enfants, ont cherché à vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà, bon. Donc, de bien distinguer les différentes situations. Et puis il y a ces situations, voilà, et puis il y a d'autres situations qui sont complètement contraires à l'idéal évangélique. Ou alors il y a une violence, il y a une. Voilà. Où on ne prend pas du tout en compte la souffrance des enfants. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent sous la plume du pape François. Je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais. Oui. De porter l'attention comment les enfants vivent ces situations douloureuses des parents. Bon, les enfants n'y sont pour rien, mais voilà, qu'on les laisse autant que possible en dehors des conflits qui sont douloureux, mais voilà, que de ne pas en faire porter le poids aux enfants autant que c'est possible. Dans le numéro 299, il poursuit son idée de la logique de l'intégration. Alors, il le fait d'une manière assez concrète. Il dit, ben, peut-être qu'il faut revoir hein, dans l'Église, quelquefois, quelqu'un qui était divorcé, remarié, ne pouvait pas faire la catéchèse ou des choses comme ça. Alors, il dit, bon, il y a des choses, peut-être, ce n'est pas possible, mais peut-être qu'il y a des choses, ils peuvent tout à fait avoir leur place. Donc, revoir si c'est opportun ou pas. Bien sûr, si la personne... fait la promotion de son mode de vie, bien sûr, et on ne peut pas lui donner une charge d'enseignement dans l'Église, ça c'est évident. Mais il y a peut-être d'autres manières où ils peuvent avoir un rôle vraiment dans l'Église et pas se sentir rejeté. Numéro 300, alors ça sera sur ce numéro que je m'arrêterai ce matin. Alors, ce numéro 300 a fait couler pas mal d'encre par la note 336. Alors, je vous lis ça. Voilà ce qu'il dit dans le numéro 300. Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, comme celle mentionnée auparavant, on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation générale du genre canonique. Donc, il ne faut pas s'attendre. Applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers qui devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Alors, c'est là que les choses... Et alors, on lit en note, justement, à note 336. Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. Voilà. Je ne vous lis pas le reste de la note et le reste du passage, mais voilà. Alors, simplement sur ce numéro 300, qui est assez long, donc vous pourrez le lire. Alors, il y a des choses, j'y reviendrai au numéro 305, j'y reviendrai cet après-midi, mais je vais déjà aborder comme ça, ça mijotera un peu en vous. Ce que je vous dirai un peu cet après-midi, c'est, vous savez, pour une faute grave, qu'est-ce que, puisque le pape parle d'une faute grave, je crois là, oui, le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. Alors, faute grave, je pense qu'on peut l'entendre par ce qu'on entendait autrefois, par péché mortel, hein, l'expression technique, on pourrait dire. Et qu'est-ce que ça veut dire, péché mortel ? Ça veut dire que ça tue la vie de Dieu en nous. Quelque part, ça correspond à une distinction qui rejoint aussi notre expérience dans les relations avec les autres. Je m'énerve ce matin, j'en vais promener Marie-Pierre parce que je me suis levé du pied gauche. Bon, elle s'éclame bien quand même. Mais c'est, voilà. Mais si je lui écris une lettre incendiaire, voilà, un peu plus pensée, alors là, c'est un peu plus ennuyeux. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est cassé dans la relation. Bon, ou si je lui fais vraiment un tour pendable, alors là, c'est autre chose qu'un énervement parce que, voilà. On sent bien dans notre vie qu'il y a une gravité différente dans des choses qui atteignent plus profondément la relation. Et dans la doctrine de l'Église sur le péché véniel et le péché mortel, c'est la même chose. Il y a des choses vis-à-vis de Dieu, ben voilà, on a mal fait notre prière, tout ça, mais c'est pas la même chose que mal faire sa prière et de poser un acte qui remet vraiment en cause notre relation avec Dieu. Voilà. Et dans ce qu'on appelle le péché mortel, il y a trois éléments qu'il faut ensemble. Il faut une matière grave. Je tue un moustique, ça c'est pas une matière grave, donc il n'y a pas de péché mortel de tuer un moustique. Donc. Voilà. Mais c'est vrai que en ce qui concerne la fidélité conjugale, ça c'est une matière grave. La matière est grave. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a deux. Ça c'est un élément tout à fait objectif, on pourrait dire, et beaucoup plus. Il y a deux éléments qui sont. Et de l'extérieur, on ne peut pas savoir. Ça concerne l'intelligence et la volonté. Ça concerne, est-ce que je sais vraiment que c'est un mal? Alors après, là vous voyez tout de suite, déjà on rentre dans des choses un peu plus délicates, un peu plus compliquées. Jusqu'à quel point je sais que c'est mal? Parce qu'on peut aussi s'aveugler pour ne pas voir le mal. C'est là qu'on est quelquefois un peu compliqué et puis volontairement on ne veut pas voir que c'est mal. Hein, quelquefois donc... c'est là que ça demande un peu plus de doigté. C'est là qu'après, on voit que l'accompagnement est important pour discerner. Si le pape parle d'un accompagnement, c'est aussi pour essayer de comprendre vraiment. C'est au niveau de la connaissance et puis c'est au niveau aussi de la volonté. Est-ce que vraiment on voulait ce mal ou est-ce que, voilà, on s'est laissé entraîner, mais jusqu'où on le voulait ? Alors, il ne faut pas dire, bien sûr qu'on n'a jamais la connaissance à 100%, on n'a jamais la volonté à 100%, mais quand même, on sait que dans bien des situations, il y a des choses, on les a voulu quand même, où ça ne s'est pas fait indépendamment de nous. Quoi. Mais alors, du coup, quand le pape parle de le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière, il n'y a pas de faute grave. Mais quelquefois, justement, en échangeant avec la personne, on peut se rendre compte que finalement, peut-être ce qui est objectivement est quelque chose de grave, hein, se rompre le lien avec son mari ou sa femme, c'est clairement quelque chose de grave. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça peut faire que finalement c'est peut-être pas aussi grave dans la subjectivité de la personne que ça peut le paraître extérieurement. Et du coup, les conséquences au niveau des sacrements, comme dit le pape, il parle pas de la communion directement d'ailleurs dans ses notes, mais au niveau des sacrements, peut-être il faut peut-être y regarder à deux fois et pas mettre tout dans le même sac. Alors, on est obligé dans l'Église de tenir compte. Le pape Jean-Paul II, dans l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, se positionnait davantage du point de vue objectif. Le pape François se positionne davantage du point de vue subjectif. Mais il faut jamais exclure l'autre. Ça peut pas être purement subjectif ou purement objectif. Hein, mais il faut tenir les deux, ce qui est pas très simple. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Alors, je vais vous dire une chose, ça va vous faire bondir peut-être, ça vous réveillera comme ça. Parce qu'on retrouve ça dans saint Thomas d'Aquin aussi, où... vous pourrez lire, c'est la question 19, si mes souvenirs sont bons, de la Prima Secundae. Vous êtes familiarisé avec la somme théologique de saint Thomas. Hein? Question 19, Prima Secundae. De toute façon, vous le trouvez maintenant sur Internet, ça, vous tapez ça. Et alors, il y a deux articles, il y a différents articles. Il y a l'article 5 et 6, entre autres. Et au numéro... 5, j'espère que je ne me mélange pas, hein. Il traite davantage de la dimension subjective. Et l'article 6, il traite davantage de la dimension objective. Et alors, voilà, il dit, celui qui croit que... Forniquer est un bien et qui ne fornique pas, mais il commet un péché. S'il doit être fidèle à sa conscience, subjectivement, hein, c'est dans la subjectivité. Si on pense que quelque chose est un bien, il faut le faire. Alors si on pense que c'est un bien d'aller avec la femme de son prochain, il faut le faire. Bon, après, attention, après, il y a l'article 6 qui vient corriger un petit peu. Parce que il y a aussi une loi objective et il y a des choses qu'on doit connaître. Hein, mais c'est là, il force un petit peu le trait, saint Thomas d'Aquin, ou à un autre endroit, il dit « Si tu penses que croire en Jésus, c'est un mal, ben, tu ne dois pas croire en Jésus pour être fidèle à sa conscience. Hein, » C'est des choses... on ne peut pas soupçonner saint Thomas d'Aquin d'être un mécréant. Hein. Mais pour dire que la subjectivité de la personne est aussi importante. Il n'y a pas que... mais après, on est tenu de former sa conscience aussi. Bien sûr, parce que... alors, je ne vais peut-être pas vous laisser sur ces exemples-là, sinon... Ne quittez pas avant cet après-midi, je rajouterai des choses. Mais simplement pour tenir ces deux aspects toujours dans un acte de... une dimension plus objective et une dimension plus subjective. Et il faut bien tenir les deux, sinon... on arrive à quelque chose qui n'est pas juste. Voilà.